Vous connaissez l'histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs. Ali Baba, il a vu des voleurs entrer dans une grotte avec un trésor formidable. Alors ce trésor est caché dans une caverne. Pour entrer dans cette caverne, il suffit de dire une formule magique que vous connaissez sans doute. Alors Ali Baba, dès qu'il voit que les voleurs sont partis, il sort de sa cachette, il se présente devant la caverne et il dit « Sésame, ouvre-toi », car c'est la formule magique. La grotte s'ouvre et il peut prendre ce qu'il veut comme trésor. Alors cette caverne, je la trouve bien serviable, toujours prête, obéissante, généreuse pour celui qui connaît la formule magique, toujours prête à donner ses trésors. Tout homme espère plus ou moins que Dieu soit comme cette caverne d'Ali Baba et qu'il suffirait de connaître la bonne façon de prier pour que Dieu donne tout ce que notre cœur désire. Alors l'homme prie Dieu, il le prie au nom de Jésus-Christ, il le prie au nom d'Allah ou d'Adonai, il le prie avec le Bouddha au pied du Jinko, mais souvent l'homme prie pour avoir ce que son cœur désire et la grotte miraculeuse ne s'ouvre pas, Dieu ne répond même pas, il n'y a que du silence. Pourtant Dieu est un trésor d'une richesse infinie. Les hommes le savent depuis la nuit des temps, ils savent qu'il y a une richesse incroyable en Dieu. Nous le savons depuis l'origine de l'humanité. Mais Dieu n'est pas la caverne d'Ali Baba. La caverne d'Ali Baba n'existe pas, c'est triste, ou seulement dans les rêves. Mais c'est autrement que Dieu nous donne ses trésors, trésors de bénédiction. Alors pour essayer de chercher comment est-ce que ça marche, je vais vous lire l'histoire d'une femme qui vient vers Jésus avec sa prière, avec sa demande, avec une bonne prière en fait. Elle est devant Jésus un peu comme devant la caverne des trésors d'Ali Baba. Et Jésus va lui faire découvrir finalement que ce trésor, c'est en elle-même qu'elle le trouvera, avec l'aide de Dieu. Alors attention, cette histoire, elle est un peu choquante. On a l'impression que Jésus est vraiment, vraiment dur avec cette femme. Mais vous verrez, je pense, qu'au contraire, il lui donne la vie véritable à elle et à sa famille. Alors c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15, à partir du verset 21, que je vais vous faire la lecture de cette rencontre de Jésus avec une femme cananéenne. Jésus se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui était dans ce pays sortit et cria vers Jésus. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant Jésus en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur Seigneur. » Alors Jésus lui répondit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à nous ouvrir dans la prière vers le salut que Dieu nous offre, je vous propose de chanter le cantique 240 dans le Louange et prière, le petit recueil. Le cantique 240, les trois premières strophes. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur de notre espérance, nous te cherchons dans la réflexion autour de ces témoignages anciens qui sont dans la Bible. Nous t'espérons, ô toi, source de nouveauté de vie. Ne trouvez-vous pas que Jésus est un peu dur avec cette femme cananéenne qui lui demande de l'aide ? D'abord, il ne lui répond pas un mot, alors qu'elle lui demande quelque chose de juste, finalement. Et ensuite, il semble la traiter de petit chien, ce qui est largement aussi méprisant dans le contexte de l'époque que maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment ça ? Comment est-ce que Jésus pourrait être méprisant pour quelqu'un ? Cela ne lui ressemble vraiment pas. Cela ne ressemble d'ailleurs vraiment pas à Dieu, à ce Dieu que révèle Jésus-Christ. Dieu qui est plein de tendresse pour chacun, sans distinction, qu'il soit bien sûr juif ou venant d'un autre pays, qu'il soit homme ou femme. Dieu fait tout ce qu'il peut pour que chaque personne humaine vivant dans ce monde ait vraiment la vie, une vie riche, une vie incroyablement belle, forte et bienfaisante. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre ? Pourquoi est-ce que Jésus ne répond pas à cette femme ? Sa prière était pourtant excellente. Mais d'ailleurs, même si sa prière était mauvaise, bien sûr, Jésus veut venir à l'aide de tout le monde. Alors, cette femme, elle a une bonne prière, car elle ne prie même pas pour elle-même, finalement. Elle prie pour sa fille. C'est quand même plutôt bien. Et puis elle prie d'une belle façon. Souvent, la prière des hommes, elle donne des ordres à Dieu. Et je crois que ce n'est pas une très bonne idée. Souvent, on a envie de dire à Dieu, donne ceci, fais cela. Alors parfois, on ajoute un petit s'il te plaît, on ajoute quelques louanges à Dieu, parce que d'abord c'est poli, et puis on espère qu'en étant comme ça, un peu gentil avec Dieu, peut-être en ajoutant quelques promesses, eh bien, on arrivera à le convaincre de faire quelque chose pour nous. Mais ça, c'est pas comme ça, bien sûr, que ça marche, car Dieu est d'une bienveillance de toute façon parfaite. Mais la prière de la femme, elle est bien mieux que ça. Elle est respectueuse de Jésus et donc de Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas des ordres à Dieu. Elle ne lui dit pas ce que Jésus devrait faire pour elle, ce qu'elle attend, ce qu'elle espère, non. Simplement, et je crois que c'est une bonne idée, elle dit à Dieu quel est son problème. Elle dit, Elle dit ce qui ne va pas dans sa vie. Sa fille est malade, finalement. Peut-être qu'elle a une épilepsie, car c'est ce qu'on pensait être une maladie, un démon qui agit dans la personne. Alors, elle présente son problème devant Dieu, elle l'expose avec confiance, en comptant simplement sur la compassion de Dieu. Elle ne dit pas « voilà ce que j'ai fait de bien, donc tu pourrais m'aider ». Elle ne dit pas « si tu m'aides, je ferai plein d'autres choses ». Non, tout simplement, elle dit « voilà mon problème ». Et elle compte sur le génie de Dieu, sur cette incroyable force qu'il y a en Dieu pour ressusciter la vie, pour guérir, pour faire avancer. Donc, c'est une bonne prière. Nous aussi, souvent, nous faisons de bonnes prières. Et habituellement, comme je vous le disais, c'est le silence qui nous répond. Alors, c'est ce qu'on voit dans cette histoire où Jésus ne répond rien à la femme, et ça correspond bien à notre expérience. Et c'est ce que l'on voit dans de nombreux psaumes de la Bible où le psalmiste dit « Éternel, tu ne réponds pas. J'attends, je prie vers toi, je crie et tu ne réponds pas. » Eh bien, ces textes nous apprennent que c'est normal. C'est normal. Et ces textes nous montrent pourquoi et comment nous pouvons continuer à prier et à espérer, même si nous ne recevons que du silence. C'est normal que le silence réponde à la prière. C'est normal parce que la parole de Dieu, elle ne s'entend pas comme vous entendez mes paroles, si vos oreilles fonctionnent ou si les petits casques électroniques fonctionnent bien ou si Internet marche correctement. Et donc, la parole de Dieu, elle ne s'entend pas par les oreilles. Mais la parole de Dieu, c'est une force, c'est une espérance nouvelle, c'est comme une vie nouvelle qui arrive en nous. Et donc, nous pouvons dire, après coup, finalement, oui, Dieu est intervenu car je suis un peu plus vivant après ma prière qu'avant. Mais pendant la prière, on n'entend pas la parole de Dieu, bien sûr. Et puis le secours de Dieu n'est pas un coup de baguette magique, comme la grotte, la caverne d'Ali Baba qui s'ouvre comme ça au son de la formule magique et qui nous permet d'entrer, d'attraper les trésors tout de suite. Le bénéfice de la prière, c'est la transformation de notre être. En mieux, ça nous donne une vie nouvelle, un supplément d'être, un supplément de vie. Et ça, ben c'est pas instantané, c'est pas quelque chose de brutal, de visible, que l'on peut toucher du doigt, c'est quelque chose que l'on remarque après coup. Oui, je suis tout d'un coup un peu plus vivant, j'ai une espérance que je n'avais pas avant, j'ai une force, j'ai des idées, un optimisme, un amour que je n'avais pas hier avant de prier. Mais nous, notre regard, notre espérance, elle est souvent fixée sur l'instant, sur le tout de suite. Le tout de suite, ce que je veux exactement, point, c'est tout. Notre espérance, elle est fixée sur du matériel, quelque chose que l'on peut toucher du doigt, que l'on peut sentir, que l'on peut tenir dans ses mains. Alors oui, nous voudrions que la caverne, que la grotte magique s'ouvre et que l'on puisse prendre ses trésors dans les bras tout de suite et puis ensuite aller acheter ce qu'on veut. Mais ce que Dieu nous offre est infiniment plus que ça, infiniment plus riche. Car cette richesse, il va la mettre à l'intérieur de nous-mêmes et c'est nous qui serons plus grands, plus bienveillants, plus bienfaisants, plus libres aussi. Alors que tant de choses nous emportent, nous guident par le bout du nez. Alors cette évolution, bien sûr, ça prend un peu de temps. Il va nous faire évoluer, mais un peu comme un arbre pousse, si vous voulez, doucement, à son rythme. Alors la femme, elle continue à prier, c'est une bonne idée, et Jésus ne répond rien. C'est souvent comme ça dans la prière. Jésus attend, il lui laisse le temps de réfléchir sur ce que son cœur désire finalement, sur ce qu'elle espère, pour qu'elle arrive à ouvrir son cœur plus largement à ce que Dieu lui offre et ce qu'il veut lui donner, ce qui est un trésor en fait incroyable et qui est complètement hors de portée des forces humaines. Saint Augustin a écrit que la prière augmente notre capacité à recevoir. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est tout à fait ça. Et le silence de Jésus, le silence de Dieu, il creuse encore l'attente, l'attente que nous avons. Et le silence de Dieu, le silence de Jésus devant cette femme, il questionne notre espérance, il nous prépare à évoluer finalement pour recevoir vraiment le salut que Dieu nous offre. Alors la femme cananéenne, elle persévère, elle vient se prosterner devant Jésus lui disant « Seigneur, viens à mon secours ». Alors là, ce n'est pas facile non plus, c'est même peut-être pire que le silence dans un sens. Jésus lui répond « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Alors elle aurait pu prendre ça très mal finalement, car se faire traiter de petits chiens, c'est mieux que de se faire traiter de chienne, c'est vrai, mais je ne crois pas que Jésus, en fait, bien sûr, la traite de sale chienne. Est-ce que par hasard Jésus serait plein de mépris pour les étrangers ou pour les femmes et qu'il refuserait de l'aider parce qu'elle est cananéenne ou qu'elle est phénicienne ou je ne sais pas quoi, parce qu'elle n'est pas juive? C'est absolument impossible de le penser quand on voit la manière d'être de Jésus et ce qu'il dit. Les disciples de Jésus n'ont pas pu penser une seconde que Jésus la rejetait parce qu'elle était étrangère. Et cette femme qui a l'air si bien renseignée sur Jésus, car ce qu'elle dit de Jésus est tout à fait exact, d'être Seigneur et fils de David, elle n'a pas pu penser une seconde que Jésus la rejetterait car elle est étrangère, sinon elle n'aurait pas fait le déplacement, bien sûr. Si cette femme étrangère ose aller vers Jésus, c'est qu'elle a dû apprendre qu'elle avait déjà aidé des étrangers, qu'elle avait même guéri le serviteur d'un centurion romain, donc elle ne méprise ni les petits pauvres, ni les étrangers, ni même un centurion romain, ce qui est pire qu'un étranger. C'est un étranger envahisseur et violent. Et donc si elle ose aller vers Jésus, c'est qu'elle a dû entendre que Jésus avait fait cela déjà bien avant, et qu'il en avait parlé, qu'il avait annoncé officiellement que le salut de Dieu était absolument pour tous, pour les juifs comme pour les gens qui étaient non-juifs, pour les hommes comme pour les femmes, sans distinction. Car oui, avant ce texte, un peu avant, dans l'évangile selon Matthieu, Jésus avait annoncé à plusieurs reprises, très clairement, que le salut serait pour tous, juifs et non-juifs. Il l'avait annoncé, par exemple, que de nombreuses personnes viendraient des quatre coins de la terre pour s'installer, non pas seulement avec les Juifs quelconques, mais avec Abraham, avec Isaac et Jacob, les plus grands patriarches, les pères d'Israël, dans le royaume des cieux, à leur côté, à côté d'Abraham, Isaac et Jacob, des étrangers, peut-être même, dit Jésus, le centurion romain, peut-être cette femme cananéenne qui a une foi extraordinaire que Jésus montre en exemple. Jésus montre en exemple la foi de deux personnes, un centurion et ensuite cette femme cananéenne. Alors peut-être dans un autre évangile après, une femme qui met de l'huile sur ses pieds, mais c'est une autre histoire. Ailleurs, un peu après l'histoire du centurion et avant ce récit de la femme, Jésus dit qu'il leur sera donné, il sera donné à l'humanité un signe. Et il appelle ce signe le signe de Jonas. Alors ce signe, nous dit Jésus, tout le monde l'a déjà devant les yeux. Alors qu'est-ce que c'est que le signe de Jonas? On ne peut pas être plus clair pour les gens de l'époque, car c'était un conte théologique qui est dans la Bible, qui était encore plus connu à l'époque que ne l'est Ali Baba et les 40 voleurs pour nous. L'histoire, le conte de Jonas, c'est l'histoire donc d'un petit prophète qui va annoncer le salut aux Ninivites. Il n'y a pas plus étranger, il n'y a pas plus ennemi d'Israël, il n'y a pas plus violent que les Ninivites. Et Jésus nous dit que voilà ce qui sera montré, voilà ce qui se réalise, voilà quel est son projet, sa mission, le signe de Jonas, c'est-à-dire que le salut est annoncé, la conversion, le pardon de Dieu est annoncé à tous, même aux plus étrangers, même aux plus pécheurs. Alors cette façon que Jésus a de considérer les païens n'est d'ailleurs pas tellement étonnante dans la théologie juive, puisque Le salut qu'apporte le Christ, par définition, c'est l'accomplissement des promesses faites à Israël, en particulier cette promesse faite à Abraham, qui est que toutes les nations seront bénies à travers le salut de Dieu, dans le salut de Dieu, et la promesse donnée à Noé, si vous voulez, qui est universelle pour tous les peuples, pas seulement pour les Juifs. Et donc cette façon que Jésus a de considérer les païens n'est pas étonnante du tout. Et pour Jésus, cette femme fait évidemment partie des brebis perdues de la maison d'Israël, bien qu'elle ne soit pas juive, bien sûr. Elle n'est pas fille d'Abraham selon le sang, mais qu'importe, puisque Jésus n'est pas raciste. C'est pas comme ça qu'il compte. Mais elle descend d'Abraham. Comment ? Eh bien, par la promesse qui est faite à Abraham que toutes les nations seront bénies. Elle est enfant d'Abraham par la foi qu'elle a en Dieu, on le voit dans cette histoire, par la confiance dans ses promesses que Dieu fait, par l'espérance qu'elle a d'être soutenue, d'être guérie, d'être aidée par Dieu. Et elle a bien raison. Alors pourquoi est-ce que Jésus lui dit qu'il n'est venu que pour les brebis perdues d'Israël, ne dit qu'il est venu que pour les brebis d'Israël, si pour lui, Israël, c'est l'humanité tout entière? Eh bien, il rappelle ainsi que la priorité, c'est précisément de réconcilier les hommes avec Dieu, de leur porter sa bénédiction, de les ressusciter, de les rassembler en un Israël, finalement, qui sera fait de tous les peuples de la terre. Comment peut-on alors comprendre cette parole de Jésus sur le pain des enfants que l'on ne doit pas donner aux petits chiens ? On ne peut donc pas identifier les enfants aux Juifs et les petits chiens aux étrangers ? Évidemment non, car comparer certaines personnes à des petits chiens, ça voudrait dire que certaines personnes seraient des sous-hommes finalement, des pas vraiment humains, comme s'il y avait des humains et des chiens dans l'humanité finalement. Alors la question n'est donc pas de savoir qui sont les enfants et qui sont les petits chiens dans la comparaison que fait Jésus, mais que dans chaque personne, il y a de l'enfant et il y a du petit chien. Ça représente deux dimensions de chaque personne humaine. Et Jésus explique quel est le champ de son action, finalement. Et donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'enfant de Dieu en nous. Mais Jésus est très clair ailleurs dans l'Évangile. Quel que soit notre âge, et même vous qui êtes ici et qui avez 100 ans ou presque, Jésus nous appelle à ne pas oublier l'enfant qui est en nous et que vraiment cet enfant s'ouvre au pain qui vient de Dieu en Jésus-Christ. L'enfant, dans la bouche de Jésus, c'est une façon d'être. C'est une foi, c'est une confiance, c'est une soif de grandir, d'apprendre, de devenir meilleur, de devenir plus libre. La foi, c'est une dimension essentielle de notre être et Jésus ira même jusqu'à dire « Je vous le dis en vérité, si vous ne changez pas et que vous ne deveniez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et donc c'est cette dimension-là, c'est l'enfant de Dieu qui est en nous, c'est cette dimension-là que le Christ a pour mission de nourrir, de guérir, d'encourager, de fortifier. C'est cette dimension-là qu'il va rechercher chez les trop religieux qui croient tout savoir et qui méprisent les autres. C'est cette dimension-là qu'il va rechercher chez les gens qui ont oublié Dieu ou chez les païens qui vivent sans Dieu. C'est cette dimension-là que Jésus va rechercher comme le berger va rechercher la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Alors ce n'est pas tellement la mission de Jésus de faire des guérisons physiques comme le demande cette femme pour que Jésus guérisse sa fille. Ce n'est pas tellement la mission de Jésus de s'occuper du petit chien que nous sommes aussi par certaines dimensions de notre être. Car bien sûr, par certains côtés, nous partageons le corps comme le chien, nous avons besoin de nourriture comme lui, nous avons besoin de ne pas avoir trop froid, d'avoir un peu de fourrure. Alors ce n'est pas tellement la mission de s'occuper de la dimension physique de notre être. Il avait une autre mission, mais il ne méprise pas pour autant cette dimension de notre être très physique. On le voit, Jésus guérissait quand même le corps des gens. Mais ce n'était pas sa mission, ce n'était pas son métier, son job de Christ, de Messie. Il le faisait simplement par compassion finalement, mais il disait ne le dites pas trop fort, car quelque part le risque, c'est que les gens pourraient penser que l'essentiel c'est d'avoir la santé, comme on dit pour le nouvel an. Mais en fait c'est faux, bien sûr. C'est bien d'avoir la santé, et on vous la souhaite à tous, une bonne santé pour cette année, mais l'essentiel est ailleurs, l'essentiel c'est dans quelque chose de spirituel au plus profond de notre être. L'essentiel, c'est la foi, c'est l'espérance et c'est l'amour, bien sûr, car c'est ça qui dure pour l'éternité. C'est ça qui fait la qualité de notre être et d'une bonne année. « Oui, Seigneur, dit la femme, répond la femme, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des seigneurs. » La réponse de la femme rassure Jésus. Elle a bien saisi que le pain qu'est le Christ est donné pour que le monde, je dirais, puisse vraiment avoir la parole de Dieu et que l'enfant de Dieu puisse vivre en chacun. Mais la femme, elle espère à juste titre que les miettes de bénédiction viendront quand même nourrir, aider les dimensions très physiques de son existence matérielle. Et c'est bien le cas, je crois. La bénédiction de Dieu, elle est une dimension spirituelle de notre être. Elle aide notre dimension spirituelle, mais il y a aussi des bénéfices pour notre existence tout entière. Alors bien sûr, l'essentiel, c'est cette dimension infiniment noble et précieuse de notre être, qu'est le spirituel. Mais Dieu ne se désintéresse pas non plus du petit chien que nous sommes aussi. Dieu veut notre santé, bien sûr. Il veut le bien-être de chacun. Et des miettes de sa bénédiction peuvent donc être espérées là-dessus aussi. Mais c'est comme un bonus, comme une grâce supplémentaire. Le secours de Dieu ne nous est pas donné comme un trésor qui tombe du ciel. Le secours de Dieu est comme du pain pour nourrir notre être profond. Dieu est comme du pain qui nous donne de la force pour nourrir notre bonté intérieure, pour nourrir notre intelligence et nos qualités propres, pour nourrir notre bon moral. Mais même pour ce qui est de l'entraide, finalement, car si la priorité du Christ, c'était le spirituel, il nous confie à nous, je veux dire, d'aller aider les autres matériellement aussi, de nous occuper du spirituel, mais de nous occuper aussi du petit chien que nous sommes, car en ce monde, nous sommes à la fois enfants de Dieu et petit chien, c'est une réalité. Même pour ce qui est de l'entraide, donc d'aider les gens dans le domaine, je dirais, matériel de leur être, la question, c'est de nourrir le petit chien, pas simplement d'ouvrir des cavernes d'Ali Baba. La question, c'est d'aider le petit chien à grandir, à se fortifier, à devenir un bon grand chien en pleine forme. Même dans le domaine de l'entraide, il est tenté de donner à celui qui a besoin d'aide, de lui donner simplement des richesses comme ça, d'ouvrir la caverne d'Ali Baba, mais c'est aussi une façon de l'asservir. C'est aussi une façon peut-être de tuer l'enfant de Dieu qui est en lui et de le garder à l'état de petit chien, incapable de se nourrir par lui-même. Alors finalement, que ce que nous propose Jésus, c'est de nourrir l'être profond, de libérer la personne humaine, et d'aller un peu plus en profondeur que ça, de permettre de guérir à la personne, de la remettre sur pied, de lui permettre de grandir et d'espérer. Alors Jésus dit à la femme, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait maintenant comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. La grâce de Dieu est infinie, nous pouvons vraiment compter dessus. Amen.